This is the Humans Link Audio Experience.
Bonjour à toutes et à tous, ici Valentin French de humanslink.com et je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle pause café en live qui est sur Facebook et sur YouTube. On est là tous les jours du lundi au vendredi à 11h. Bonjour les amis, je vois qu'il y en a plusieurs qui sont déjà présents. Je dis un coucou à Lydia qui est là régulièrement. Salut Lucie. Dites-nous en commentaire d'où est-ce que vous nous écrivez aujourd'hui. On a un super live pour un super programme pour vous aujourd'hui. Hello Zazu, ça fait plaisir de te revoir ce matin. Ok, super. Je vous laisse arriver. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, pour ceux qui nous suivent régulièrement, vous le savez, moi, je vous parle de Montréal. Et aujourd'hui, on va recevoir deux humains extraordinaires qui sont en Guadeloupe. J'ai hâte de vous les présenter. Salut Katia, salut Lydia. Il y a Natacha qui est là. Natacha qui est à Montréal aussi, je crois. Même si c'est avec un espagnol. Ok, super. Donc aujourd'hui, je vous rappelle que l'objectif de ce live et de HumansLink est de construire les organisations dont l'humanité a besoin. Et notre conviction, c'est que l'adaptabilité et la résilience sont les plus grandes forces de l'humanité. Et on vous donne rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi, je l'ai dit, pour renforcer le lien humain, favoriser l'entraide, mais aussi la solidarité. Et aujourd'hui, je vais accueillir Frédéric Lao.
Bonjour.
Et Laurent du cabinet Philao Avocat. Comment allez-vous?
Bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on va parler de législation dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Et je sais que ça affecte pas mal d'entreprises et puis cette période de confinement a impacté notre fonctionnement à tous depuis plus d'un mois maintenant. Mais avant de rentrer dans tout ça, je voudrais vous connaître un peu plus. Alors moi, je sais un peu, mais je veux pas spoiler les gens qui nous regardent. Frédéric, qui es-tu?
Alors, j'ai 35 ans. Allez, je commence par ça. Et on est associé avec Laurent au sein du cabinet Philao Avocat depuis un peu plus de 2 ans, depuis le 1er janvier 2018. Okay. Moi, je suis majoritairement du droit du travail et du droit de la sécurité sociale. Et Laurent parlera de son domaine de compétences tout à l'heure. Et que vous dire d'autre? C'est tout, je crois.
Super, je vais te poser des questions après.
D'accord.
Et toi, Laurent?
J'ai 37 ans. Ça fait depuis 7 années que je suis en Guadeloupe et que je suis avocat. Et comme disait Frédéric, ça fait 2 ans qu'on est associés. Et voilà.
Ok, super. Et donc, en fait, vous avez créé le... Donc là, aujourd'hui, vous êtes en Guadeloupe et vous avez créé le cabinet Philao Avocat. Je vais afficher le lien pour ceux qui sont curieux ici tout de suite. Alors, et pourquoi le droit? Je suis curieux de savoir, est-ce que c'était un rêve d'enfant de pratiquer le droit? Comment personnellement, chacun de vous êtes arrivé à faire ça?
Alors, moi, j'avoue que j'ai eu mon bac en 2002 et c'était l'année où il y a eu le fameux coup de tonnerre du 21 avril avec Marine Le Pen au second tour. Et je voulais m'engager en politique. Ça a commencé comme ça, je vous avoue. Je me disais qu'il fallait trouver une façon de changer les choses. Donc, au début, j'avais pensé faire Sciences Po. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas le droit? Il y avait une filière de droit français, droit anglo-saxon, pas très loin de chez moi, enfin, c'est Argy, à l'époque. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'en suis venue au droit, en me disant qu'il y avait plein de choses à changer et qu'il fallait faire preuve de pédagogie pour que plus jamais ça n'arrive. Bon, la suite de l'histoire m'a donné tort, mais à l'époque, c'est ce que je pensais, en tout cas en 2002. Et c'est ce qui m'a amené en fait à commencer mes études de droit, à d'abord faire 5 ans de droit classique, j'ai envie de dire, toujours avec une dominante droit du travail, Mais je ne m'étais pas dit au départ que je serais avocate nécessairement, que non, j'ai d'abord commencé d'ailleurs à être juriste en entreprise.
D'accord.
C'était un peu l'occasion, enfin c'était là où j'avais fait mon stage de fin d'études dans une filiale d'EDF, Réseau Transport Électricité. Et puis j'y suis restée, et puis c'est après que je me suis dit, allez, je vais revenir à mon idée initiale, cette idée un peu de changer le monde, en tout
Ouais.
cas par un petit bout, et que là, j'ai passé l'examen d'avocat.
Donc c'est t'as l'idée de faire ta part, de contribuer, tu as passé l'examen d'avocat. Et ensuite, est-ce qu'il y a une anecdote par rapport à Philao Avocat? Comment ça s'est fait finalement?
En fait, au départ, on est amis avec Laurent et c'était enfin moi je m'étais installée en individuel en 2015, c'est ça, en 2015. Et ensuite, ben, à force de discussion, de se dire que notre métier évolue, que ce serait bien de mutualiser nos compétences, et puis envie de d'autres choses finalement, de pas, il y a aussi cette solitude de l'entrepreneur. Enfin, je vivais un peu à certains moments. Lui, c'était l'occasion. Enfin, il en parlera mieux que moi tout à l'heure, mais l'occasion aussi. Et c'est comme ça qu'on s'est dit à l'été 2017. Donc finalement, ça a été assez rapide. Je me
Ouais.
rappelle à l'été 2017, on s'est dit bah, pourquoi pas. Et puis c'est à ce moment-là qu'on s'est dit bah, on va peut-être aller voir un expert comptable quand même pour se faire accompagner, parce que ce serait plus raisonnable que de se dire qu'on peut tout faire nous-mêmes. Et puis
Alors,
voilà,
ensemble, on
c'était
va plus
parti comme
loin.
ça. Exactement. Et c'était parti comme ça en fait.
Exactement. Et toi, Laurent, alors, est-ce que c'est quoi l'histoire derrière ton cheminement?
Beaucoup plus basique que Frédéric, c'est je savais pas quoi faire après le bac. Je me suis dit avec le droit, je pourrais faire plein de choses, passer des concours. Et puis au final, comme j'appréciais beaucoup la vie étudiante, je suis resté très longtemps à la fac. Et au bout d'un moment, je me suis dirigé vers une spécialité en droit international qui m'a beaucoup plu et beaucoup intéressé. Je crois que ça a été un peu le déclic. Et à partir de là, j'ai passé le concours d'avocat que j'ai eu. Et ensuite, les stages se sont enchaînés. Et voilà. Et me voilà avocat aujourd'hui.
Ok, super. Alors, dans ce contexte-là, Philao Avocat, je sais que vous continuez l'activité en ce moment. Peut-être, est-ce que vous avez observé comment vous avez été impacté, peut-être personnellement, mais aussi professionnellement, par cette période de confinement, par cette pandémie. Je sais pas si Frédéric, tu veux commencer?
Ouais, moi, ce que j'ai trouvé difficile, j'ai envie de dire mi-mars, un peu avant l'allocution du président, c'était d'avoir le sentiment de devoir prendre des décisions en tant que chef d'entreprise, parce qu'on a des salariés. S'il n'y avait eu que nous, je pense que ça aurait été, enfin, ce serait moins posé de questions. On aurait fait notre plan de continuation à deux, et puis on aurait été de chez nous, et puis ça aurait été simple. Mais là, c'est vrai qu'en n'ayant pas de visibilité sur la durée du confinement, il nous fallait déjà réfléchir à comment faire sans avoir les outils, enfin sans avoir les clés pour savoir comment gérer nos salariés. Donc c'était un peu ce côté. Moi j'ai eu ce sentiment des 15 premiers jours de confinement, un peu de sidération, en se disant bon, qu'est-ce qui nous attend? On va essayer de prendre les décisions les moins pires possibles. Enfin, c'est pas génial de dire ça comme ça, mais en se disant bon, et après on verra bien et on lâche prise. Mais il y a eu, moi je sais que j'ai eu cette première quinzaine en me disant comment est-ce qu'on va faire, et nos clients et l'activité judiciaire. Là-dessus on a eu des réponses assez rapidement puisque les juridictions hormis les urgences étaient fermées. Mais voilà, il y a quand même eu ces quelques jours en tout cas me concernant de flottement finalement en attendant les dispositifs.
C'est vrai que beaucoup de chefs d'entreprise, puis on va parler de l'entreprise aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de gens en général, mais on a eu plusieurs retours avec Humans Link, puis même personnellement. Il y a une semaine où il y avait un sentiment, on était presque abasourdi, c'était une situation un peu surréaliste, et donc c'était assez particulier. Est-ce que toi, tu l'as vécu comme ça, Laurent?
Pas complètement, parce que déjà, contrairement à Frédéric, qui était beaucoup plus attentive à ce qui se passait et au confinement imminent, moi j'étais un peu. Enfin, je me disais que ça allait, que c'était juste une grippe qui passait. Et c'est vrai qu'en l'espace de quelques jours, on est passé à tout va bien, vous embêtez pas, c'est juste une grippe, à il va falloir confiner tout le monde. Et donc, psychologiquement, de se dire que bah, il va plus y avoir de travail, qu'il va plus y avoir de rentrée d'argent, qu'il y aura des charges à payer, enfin, là, je me suis senti un peu pas seul parce qu'on a une équipe et il y a Frédéric avec qui on discute souvent, mais oui, je me suis senti un peu seul à ce moment-là. C'est parce que ça met aussi en suspens plein de projets au niveau personnel. Enfin, ça fait, y a une, c'est cette incertitude, je crois, qui fait le plus peur. Parce que bon, maintenant, ça va un peu mieux. On sait, enfin, on voit un peu le bout du tunnel, mais c'était ces 15 premiers jours, 3 premières semaines, c'est vrai que ça a été un peu compliqué de savoir où on allait.
Effectivement, est-ce que vous avez à titre professionnel, par rapport à PhiloHawker, est-ce que vous avez, il y a des mesures particulières que vous avez prises? Parce que, effectivement, ce que je voudrais qu'on aborde aujourd'hui pour les gens qui nous regardent, c'est de pouvoir comprendre. Okay, on va le faire en plusieurs étapes, mais c'est comment les entreprises ont réagi, qu'est-ce qu'on aurait pu anticiper, mais après aussi, qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui légalement, quels sont les recours, les outils qui sont à disposition. Donc aujourd'hui, Philao Avocat, quand vous êtes rendu compte de ça, déjà pour le cabinet, est-ce qu'il y a des mesures que vous avez prises, des réalisations, vous avez réalisé certaines choses qui ensuite, à travers vos clients, vous avez vu en fait que ouais, c'était pas juste vous, c'était tout le monde.
Ouais, enfin, nous, dès le départ, enfin, dès le départ, on a décidé de fermer ou d'être, enfin, en tout cas physiquement, qu'il n'y ait plus personne les premiers jours, en tout cas, ce qui n'est plus le cas maintenant, mais qu'il n'y ait plus du tout, enfin, qu'il n'y ait plus personne physiquement au cabinet. Donc, pour les salariés pour lesquels c'était possible, on les a tout de suite placés en télétravail. Pour les autres, en congé payé. Donc, en
OK.
attendant parce que c'est vrai que souvent, rétrospectivement, on refait l'histoire en se disant, est-ce que c'était la bonne décision qu'on a prise? Mais à ce moment-là, on ne savait pas pour combien de temps on était parti. Donc forcément, on a mobilisé ce qu'on avait de dispositifs sous la main le plus rapidement. Après, il y avait effectivement, et on a beaucoup de clients qui ont fait ça, des demandes d'activité partielle, donc le fameux chômage partiel, chômage technique, enfin, anciennement dénommé comme ça. On a eu des retours en fonction des types d'activités où il y avait des refus de chômage partiel quand ce n'était pas une activité qui était obligée de fermer. Et donc, du coup, y compris pour le cabinet, ça nous a interrogé de savoir comment on allait mobiliser ces dispositifs-là, ce qu'on a fait depuis, mais en prévoyant une continuité d'activité avec un roulement de nos salariés qui, du coup, ne sont jamais physiquement au même moment, au même étage, en tout cas, parce qu'on est sur deux étages, au cabinet.
Cabinet, oui, j'entends. Est-ce que, alors pour ceux qui nous suivent, dites-nous en commentaire si vous, c'est une situation que vous avez vécue aussi, ce début du confinement. Est-ce qu'il y a des mesures particulières que vous avez prises? Est-ce qu'il y a des blocages, des embûches que vous avez rencontrées? Dites-le nous en commentaire. Puis si vous nous suivez sur YouTube pour le live, n'hésitez pas à ajouter un petit pouce bleu sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, il y a une petite cloche aussi. Faut cliquer dessus. Et si vous êtes sur Facebook, un petit like aussi. Et puis n'hésitez pas à partager le live vers des personnes qui vous pensez, selon vous, pourront bénéficier de ce partage avec Frédéric et Laurent. Et du coup, Frédéric et Laurent, est-ce que ensuite, qu'est-ce qui s'est passé par rapport aux clients? Est-ce qu'il y a des entreprises avec lesquelles vous travaillez? Est-ce qu'il y a des craintes qui sont remontées? Il y a des peurs qui sont remontées. Quelle était la réaction de vos clients par rapport à cette situation?
C'était un peu ce qu'on a décrit tout à l'heure. C'était la première semaine, on s'est retrouvé avec. On avait du temps pour se mettre à jour dans nos dossiers parce que je pense que tout le monde. On parlait de cet état de sidération tout à l'heure. Ça a été un peu ça. On n'a pas eu trop de mails la première semaine. C'est reparti un petit peu très doucement, mais depuis. Et les craintes, c'était les licenciements pour ma matière, mais majoritairement. C'était que ce soit côté entreprise ou côté salarié. C'était maintenant qu'on sait que ça va durer, même si on ne nous dit pas comme ça, qu'est-ce qu'on va devenir? Donc il y avait vraiment ça qui ressortait. Et c'est vrai que nous aussi, à titre personnel, on avait cette crainte qu'on n'avait jamais ressentie avant. On avait l'impression d'avoir tout bien fait, en tant que chef d'entreprise. Non, enfin, c'est ça pareil. Moi, j'avais ce sentiment-là, en tout cas, d'avoir essayé de tout bien faire, tout planifier. En fin d'année 2019, allez, on repart avec une trésorerie. Rien ne peut nous arriver. Et on se rend compte qu'en fait, si. Et c'est ça qui était violent, en tout cas. Moi, j'ai trouvé ça. Et c'est le retour que j'ai de mes clients entreprises, c'est que c'est ce côté, on a l'impression d'avoir tout bien fait et pourtant, on est en train de se cracher. En tout cas, on a peur.
Et oui, c'est vrai que dans une situation, en entreprise en général, c'est intéressant, je note deux éléments ici. C'est vrai que vous êtes avocat de profession, mais en étant avocat associé, vous êtes aussi des chefs d'entreprise. Et donc, il y a ces deux réalités-là. Et c'est vrai qu'en chef, en tant que chef d'entreprise, et puis même, je pense que dans la vie en général, mais surtout dans des situations de transition comme ça, de changement, on doit prendre une décision avec une quantité d'informations qui est limitée, ou en tout cas, on a beaucoup d'incertitudes et on doit quand même agir en situation de crise. Et donc, effectivement, je peux comprendre que c'est légitime après, en rétrospection, de se dire, OK, mais est-ce qu'on avait bien fait de faire ça? Est-ce que finalement, c'était la meilleure chose à faire? Quelque part, est-ce que c'est nécessaire? On fait du mieux qu'on peut sur le moment et l'objectif c'est d'avancer en préservant la structure, en préservant les employés. Puis là, je vois qu'il y a Zazou sur le chat qui nous écrit le chômage partiel point d'interrogation. Comment payer les salariés et avancer les fonds quand la trésorerie est trop juste? Très petites entreprises à 2 salariés. Et effectivement, Frédéric nous disait, bon, il y a ces inquiétudes qui remontent. Est-ce que vous avez un élément de réponse pour Zazou aujourd'hui?
Alors, c'est vrai que ce qui est difficile avec le chômage partiel, c'est que même si on est autorisé par la DIECT à recourir au chômage partiel, l'employeur est d'abord obligé de payer ses salariés à l'échéance et ensuite d'être remboursé. Et donc c'est vrai que, alors qu'on a l'impression quand on écoute les infos qu'il y a une prise en charge directe par l'État des salaires, ce qui n'est pas le cas. Donc effectivement, c'est là où on peut imaginer recourir à un prêt de trésorerie et le solliciter auprès de la banque garantie en partie par l'État. Et c'est vrai que ces problèmes de trésorerie demeurent, hein, c'est-à-dire que dans tous les cas, même si les délais de remboursement annoncés, c'est à quinzaine par l'État. Là, on est le 22, je n'ai pas eu de retour de clients qui auraient été déjà remboursés au titre des jours de chômage partiel de mars. Donc, voilà, je suis en attente. Hein. Peut-être que c'est le cas, hein, mais en tout cas, je n'ai pas encore eu de tel retour. Donc, c'est vrai que le problème auquel nous sommes tous confrontés, c'est cette trésorerie, où même si on nous dit qu'il y a énormément d'aides, alors certes, ça va être un remboursement, mais c'est vrai que ce n'est pas présenté comme ça. On n'a pas le sentiment, mais c'est un remboursement par l'État qui oblige à avancer. Donc, à part recourir à un prêt de trésorerie auprès de la banque, c'est vrai qu'en tout cas, de l'aspect droit du travail, on est un peu coincé sur ça.
Effectivement, parce que j'entends ça et c'est vrai que c'est une réaction qui est partagée. Quand on entend les annonces qui sont faites, il y a cette perception que ça va être direct. Et effectivement, le problème de trésorerie persiste. Et donc, d'un point de vue législation, les systèmes qui sont proposés, malheureusement, si on n'a pas de trésorerie, ça ne va pas aider. Donc, comme Frédéric le dit, la trésorerie, à ce niveau-là, si on manque de trésorerie, l'entreprise est quand même tenue légalement de payer ses employés les salaires à échéance. Et dans le cas où ce serait compliqué, la solution serait d'obtenir un prêt de trésorerie auprès des banques. Même si on le voit, hein, les prêts de trésorerie sont quand même longs à obtenir.
Oui,
bien que ce qui est annoncé semble assez direct, assez facile, assez évident, ça prend quand même du temps. Et alors, il y a Yolande Casimiro ici qui nous dit « Les annonces faites pour aider les entreprises sont parfois contradictoires. Quels sont les dispositifs réellement mis en place et applicables ?» Si Laurent…
Ouais. Alors, oui, je pense qu'il y a eu tout un effet d'annonce, comme le disait Frédéric pour l'activité partielle. Et il y a eu beaucoup d'annonces comme ça faites par le président, le gouvernement. Et peut-être que l'une d'entre elles qu'on a beaucoup entendue, c'était celle de la suspension des loyers. Sauf qu'il n'y a pas véritablement de suspension des loyers dans l'ordonnance qui a été prise en ce sens. Le gouvernement a juste prévu que les bailleurs ne pourraient pas prendre de sanctions contre les locataires qui ne payent pas pendant cette période protégée. Donc, légalement, un preneur, enfin, vous avez votre restaurant, vous êtes toujours obligé de payer votre loyer, même s'il n'y a pas véritablement de sanctions qui pourront être prises, en tout cas maintenant, parce que c'est là où ça peut faire aussi un peu peur, c'est que toutes les charges qu'on arrive à éviter aujourd'hui, bah, dans quelques semaines, voire quelques mois, elles vont revenir assez rapidement. Elles vont revenir et il faudra y faire face. Donc oui, il y a tout un effet d'annonce, mais je pense que c'est des politiques qui veulent rassurer, qui veulent nous rassurer. Mais derrière, il y a quand même de grosses difficultés qui s'annoncent.
J'entends. Effectivement, il y a Zazou qui commente d'ailleurs et qui dit le prêt de trésorerie est long à obtenir. Effectivement, c'est quelque chose qu'on a vu en tout cas en Guadeloupe et Martinique. C'est la réalité en tout cas de ce que nous on a entendu. Est-ce que de votre côté, Frédéric et Laurent, vous confirmez? C'est le retour a priori que vous avez?
Oui, c'est les retours parce que du coup, moi j'ai même des clients qui se disent, on a même des clients qui disent on va renoncer à avoir à solliciter le prêt de trésorerie parce que de toute manière c'est pas ce qui va nous aider immédiatement, donc ça c'est quand même.
Alors quelque part pour rebondir à ce que Laurent dit et à cette info là. Est-ce qu'une entreprise n'aurait tout de même pas quand même intérêt à faire cette demande de prêt de trésorerie, même si ça prend du temps, parce que si on prend juste uniquement l'exemple des loyers, par exemple, les loyers ne disparaissent pas comme ça. Il y a quand même l'obligation de payer. Donc même si on est exempt, il n'y aurait pas de sanctions qui peuvent être prises pendant un mois ou deux mois, mais dès que ça reprend, il faudra les payer. Donc même si c'est ce que je comprends. Hein.
C'est ça, pour moi, ils ont tout intérêt de toute manière à faire cette demande de prêt de trésorerie. Et là, Laurent en parlera mieux que moi, mais ne serait-ce que parce que pour certains dispositifs d'aide aux entreprises, il faut pouvoir démontrer qu'on n'a pas eu le prêt de trésorerie. Donc, ne serait-ce que pour ça, ça vaut le coup d'en faire la demande.
Effectivement, effectivement. Est-ce qu'il y a il y a une information qui circule qui me dit qu'il y aurait des banques qui jouent plus le jeu que d'autres? Est-ce que c'est à votre niveau, c'est quelque chose que vous avez constaté ou pas?
Moi, je ne l'ai pas constaté. Après, la difficulté, c'est que les banques sont un peu comme nous, employeurs, elles sont en fonctionnement minimum. Donc, ce n'est pas forcément un refus de leur part ou de ne pas jouer le jeu. C'est que là où il y avait 5 personnes qui travaillaient dans une agence, l'agence est fermée et s'est transférée à une autre agence. Moi, rien qu'il y a 2 jours, j'ai voulu déposer des chèques. Il a fallu que, notre agence habituelle était fermée. Il a fallu que j'aille à une autre agence qui était fermée tel matin. Et voilà. Je pense que tout le monde rencontre les mêmes difficultés. Après, les problèmes, jouer le jeu ou pas le jeu. Je pense que les banques vont aussi s'assurer que derrière, il puisse y avoir un retour et que. Faut prêter à des gens qui peuvent rembourser et dont la situation n'est pas forcément déjà précaire avant le confinement.
Effectivement, effectivement. Malgré les garanties que la BPI pourrait apporter, qui a priori sont annoncées pour rassurer les banques justement. Et comment ça a été annoncé, c'est souvent perçu comme une annonce faite pour dire ces prêts de trésorerie pourront bénéficier à plus de clients des banques parce que la BPI est là pour soutenir. Est-ce que en termes de perception,
la BPI est là pour la BPI est là pour aider les personnes qui ont des difficultés dans cette période de crise et je pense qu'ils vont essayer de faire le tri. Et ne pas forcément prendre les gens qui avaient des difficultés avant. Je pense qu'il va y avoir un choix à faire et je pense que la BPI sélectionnera les dossiers qui présentent une garantie de fonctionnement ou pour des entreprises qui fonctionnaient bien avant Avant le confinement.
Avant le confinement, oui, j'entends bien. Pardon Frédéric, vas-y,
je t'en prie. Non, je voulais juste dire que ce que je trouve frustrant, et là, c'est en tant que chef d'entreprise, c'est que quand on entend les mesures, on a l'impression qu'il y a presque un critère d'automaticité. Alors que quand, dès lors qu'on les examine, on voit que l'automaticité est très loin de ce qui est annoncé. Et je pense que c'est valable pour toutes les mesures, que ce soit en droit du travail ou plus généralement en droit des affaires. On a constaté que là où tout nous avait été indiqué comme étant facile et rapide, qu'on en est assez loin. Et je pense que c'est ce qui est frustrant, en tout cas pour les petites et les moyennes, d'ailleurs, pour toutes les entreprises en c'est que tout ce qui est annoncé n'est pas automatique.
Alors, avant de... Du coup, il y a une question qui me vient quand je t'écoute, Frédéric, c'est de dire, OK, mais quelle est la direction qu'une entreprise doit prendre? Quelles sont les bonnes pratiques à avoir en ce moment? Puis après, en temps normal. Juste avant, il y a un commentaire de Peggy ici qui dit, être à jour de ses cotisations sociales et fiscales serait une condition pour être prise pour la prise en charge du chômage partiel, pardon. Est-ce que c'est une vraie info? Est-ce que vous avez un commentaire à ce niveau-là?
Moi, je ne l'ai pas vu écrit en tant que tel. C'est-à-dire que, mais par contre, de façon générale, le principe, c'est que pour bénéficier d'une aide de l'État, il faut être à jour de ses cotisations sociales et fiscales. Mais je ne l'ai pas vu, en tout cas, sur les dernières questions-réponses du ministère, les circulaires mises à jour, je ne l'ai pas vu en tant que condition listée.
Donc, a priori, dans le contexte actuel, pour pouvoir faire une demande de prise en charge du chômage partiel, ce ne serait pas une condition qui serait regardée aujourd'hui.
En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu comme ça. Je vais vous envoyer... Je vous envoie tout de suite le lien vers le site Activité partielle où il y a des éléments,
D'accord.
Des éléments à jour.
Super. Donc, Peggy, on va afficher le lien dans l'espace commentaire. Ensuite, il y a un message de Yolande qui dit, donc, mis à part le chômage partiel, y a-t-il quelque chose de nouveau?
Non, à part les mesures qui ont été annoncées par le gouvernement dès le début, avec les déplacements les délais de paiement sur les échéances sociales, fiscales, le fonds de solidarité et les prêts de garantie, il n'y a pas grand chose d'autre qui a été mis en place. Et je vais faire comme Frédéric, je vais vous envoyer le lien sur les moyens mis en œuvre par le gouvernement. Et je vous envoie ça tout de suite.
Alors moi, je vous ai juste envoyé le lien générique, le site sur l'activité partielle. Après, je suis en train de regarder le lien vers la dernière circulaire, enfin, le dernier question-réponse à jour.
Très bien. Alors, ceux qui nous suivent en live aussi, dans l'espace commentaire, donc le lien pour l'activité partielle. Ceux qui nous écoutent sans l'espace commentaire, donc c'est activitépartielle.emploi.gouv.fr/appart/. Vous avez le lien ici. Et y a Zazou qui nous dit, sur le plan personnel, les banques acceptent le report de 6 à 12 mois des crédits immobiliers. Je vois Frédéric qui acquiesce.
C'est là où, alors pour le coup, ça revient exactement à ce qu'on disait tout à l'heure en termes de pratique. Et là, c'est pas la praticienne du droit parce que je pratique pas du tout de droit immobilier ou de droit des crédits. Donc là, c'est Laurent qui répondrait. Mais en tout cas, j'ai eu la bonne surprise de recevoir de ma banque un message disant que, sauf si je ne le voulais pas, mes échéances étaient reportées de 6 mois. Donc, j'ai trouvé que c'était... voilà, ça existe. Et c'était le principe. C'est-à-dire que l'exception, c'était qu'il fallait que je dise que je voulais continuer à payer. Donc, j'ai trouvé que c'était une initiative qui était plutôt pas mal.
Et puis, le premier réflexe qu'il faut avoir, c'est de regarder les contrats qu'on a signés. Je le répète souvent à mes clients, mais dans votre offre de crédit pour un emprunt immobilier, vous avez souvent une clause qui prévoit le report de vos échéances sur 6 mois, 1 an, et ça peut même aller jusqu'à 3 ans. Donc, regardez votre offre de crédit pour voir si un report des échéances est possible. Il y aura bien sûr un peu de frais, mais ça peut valoir le coup quand vous êtes en activité partielle et que vous avez l'emprunt de votre maison à rembourser.
Ah, ça, c'est une bonne astuce. Donc, effectivement, retournez vers vos contrats. Et Zazou nous dit, c'est un vrai report sans frais. Donc, effectivement, normalement, ça doit être soit annoncé par la banque, soit écrit dans le contrat du prêt à la base. Et l'autre qui dit, quelle banque? Car la mienne n'a rien envoyé de tel.
Je peux
Oui,
Ouais, si tu veux.
dire ou pas? Moi, c'est la bread, donc j'avoue.
D'accord.
Voilà.
Et Zazou qui dit, il suffit de faire une simple demande par email à votre banque. Effectivement, il y a aussi peut-être une astuce, Laurent, ce serait de, après avoir regardé les contrats, mais de manière générale, d'envoyer un mail et de contacter les conseillers entreprises à la banque pour.
Oui,
Oui,
parce que comme disait Frédéric, c'était peut-être pas dans le contrat de Frédéric, et ça se trouve, en le proposant en cette période, ils vont peut-être accepter de le faire sans frais, parce que généralement, il y a quelques frais quand c'est dans le contrat. Généralement, vous payez toujours votre assurance et il peut y avoir des frais de renégociation.
D'accord, entendu. Alors, donc, on a vu qu'il y a plusieurs annonces qui ont été faites. Il y a certainement, en fait, un caractère politique à ça, une volonté de rassurer, d'annoncer plusieurs mesures à la fois, avec une perception parfois d'automatisme et de grande simplicité. Donc, ça rassure, mais c'est pas toujours, on l'a vu avec Frédéric et Laurent, après, dans la réalité, c'est les automatismes, il y en a très peu. Et c'est souvent des procédures qui sont peut-être plus compliquées. Alors, Frédéric et Laurent, une entreprise, c'est aujourd'hui qui doit traverser cette tempête incertaine. Est-ce qu'il y a des choses à faire? Comment on fait pour réagir par rapport à ça, au fait qu'il y ait des mesures qui soient annoncées, mais a priori simples, mais qui ne le sont pas vraiment, d'un point de vue légal ou d'un point de vue au niveau législatif, comment on fait pour soit profiter, soit de bénéficier, dans le sens bénéficier de ces mesures-là, ou comment on fait aussi pour se protéger? Est-ce qu'il y a des bons conseils d'avocat à ce niveau-là pour nous aiguiller?
J'ai pas entendu toute la question, je veux bien que tu répètes, s'il te plaît.
Simplement,
On a des
vu.
problèmes de connexion.
Alors, comme les annonces qui ont été partagées paraissent simples, mais ne le sont pas en réalité. Comme on l'a vu avec Frédéric, il y a peu d'automatisme. Du coup, quels seraient les conseils à donner aux entreprises pour qu'elles puissent s'assurer de bénéficier d'un maximum d'aide ou simplement d'un point de vue légal et législatif, comment faire pour traverser au mieux cette tempête?
Il faut appeler Philao avocat.
Moi, je reste
Non.
persuadée. Non, je pense vraiment qu'il faut mobiliser tous les dispositifs existants, même si on a critiqué l'absence d'automaticité. Je pense vraiment et bien évidemment se rapprocher, alors soit de son avocat, soit de son expert comptable, mais en tout cas, enfin, c'est vrai que ce qui revient beaucoup, c'est le sentiment, et je l'évoquais tout à l'heure, d'être un peu seul dans cette période à devoir prendre des décisions difficiles. Et je pense que à la fois effectivement avoir recours à ses interlocuteurs habituels. Et pas hésiter à mobiliser les différents dispositifs, même si on a le sentiment aujourd'hui que c'est vain. En réalité, ça va être un décalage, mais on va pouvoir essayer de mobiliser. En tout cas, je pense surtout à l'activité partielle. C'est vrai qu'il n'y a rien de. Alors, oui, on a entendu, enfin, j'ai lu tout à l'heure, oui, en fait, il n'y a rien de nouveau sur l'activité partielle. Oui et non, parce qu'entre le dispositif initial et celui qui a été amendé fin mars, il y a quand même des délais de traitement raccourcis. Enfin, c'est vrai qu'on a eu cette période où tout nous avait l'air difficile. Aujourd'hui, il faut qu'on dise, allez, on mobilise les dispositifs existants. On verra s'ils arrivent en temps et en heure, mais au moins on les mobilise. Parce que je pense aussi qu'avoir ce sentiment de subir, c'est difficile en ce moment. Et enfin, là, je parle plus à titre personnel, mais des fois, être dans l'action, on a au moins le sentiment d'avoir essayé de faire quelque chose et de pas être, et même si c'est pas la meilleure chose ou pas la bonne chose, mais au moins d'avoir mobilisé les différents dispositifs. Moi, ce serait mon conseil en tout cas.
Et le
Effectivement,
gouvernement,
Laurent.
il a pas mal. Il a fait pas mal de publicité dessus, donc n'hésitez pas à aller sur le site du service public ou à aller sur le site du ministère de l'économie. C'est assez clair, il vous renvoie sur des notes, des explications, et des fois on n'a pas forcément conscience qu'on est éligible à une certaine aide. Donc allez-y, on a du temps pour les regarder, donc informez-vous.
Super, donc il y a des outils qui existent effectivement. Si l'un de vous a le lien, je suis preneur, on pourra le partager avec celles et ceux qui nous regardent et nous écoutent. Est-ce qu'il y avait un moyen de se préparer à ça en tant qu'entreprise? Est-ce qu'il y avait des bonnes choses à faire pour pouvoir anticiper ou être mieux équipé pour faire face à une situation particulière comme celle-là?
Je pense que c'est assez inédit comme... Ouais.
Vas-y. Laurent, vas-y.
Ouais, c'est assez inédit comme situation. Enfin, donc, c'est facile de dire et il aurait fallu faire ça ou il aurait fallu être comme ça avant le confinement. Je pense qu'à l'instant où ça nous est arrivé, il n'y avait pas grand-chose qu'on aurait pu faire ou deviner que ça allait prendre cette ampleur. Maintenant, avec le recul, on peut se dire que, enfin, en tout cas, moi, en tant que chef d'entreprise, je me dis que faut être préparé à tout, et comme on dit, gouverner, c'est prévoir. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une trésorerie qui soit béton, même si des fois, on a plus envie de l'utiliser à autre chose. Et je pense qu'il y a d'autres moyens comme mettre en place. Nous, on avait déjà commencé à le mettre en place, le télétravail, mais je pense que c'est des moyens de travail qui peuvent être intéressants pour l'après. Je pense que si on n'avait pas mis en place le télétravail avant, on aurait été peut-être encore plus pris au dépourvu.
J'entends bien. Effectivement, être capable en tant qu'entreprise, en tout temps, en fait, il y a une expression qui dit on répare le toit de la maison quand il fait beau et pas quand il pleut. Donc, en fait, une crise, ça se prépare quand tout va bien. Et quelque part, avoir des moyens en tant qu'entreprise, pour que l'organisation puisse être flexible, puisse rapidement s'adapter pour faire face à toute éventualité au niveau trésorerie, Laurent l'a mentionné, mais également d'un point de vue opérationnel. Est-ce qu'on a moyen de quitter le bureau, de fonctionner avec un effectif réduit? Ce sont des questions qui sont pertinentes, et la situation nous le montre, en tout cas pour ceux qui étaient peut-être pas équipés pour faire face sereinement à cette situation. Ça nous montre clairement qu'il y a un intérêt stratégique à se poser ces questions, à planifier, à anticiper. Et je le vois de par notre fonctionnement avec HumanSync, on a la chance d'avoir travaillé depuis des années sur nos systèmes informatiques et on a pu, à ce niveau-là, en tout cas, à niveau opérationnel, d'avoir aucune interruption d'activité dans les échanges d'informations qu'on a en interne, etc. Alors il y a Yoli qui nous dit où est le lien que M. Laurent a proposé. Alors Yoli, on a ouais, le lien était cassé, donc on va vous le proposer dans un instant. Et il y a Katia, d'ailleurs, je profite pour te saluer, Katia. Ça me fait plaisir de te voir sur le live. C'est pourquoi le projet de résilience territoriale est indispensable, dit-elle. Est-ce que vous, à Philo, vous avez entendu parler de ce projet de résilience territoriale, ou est-ce que effectivement, c'est pas l'opportunité
Moi, j'ai pas entendu parler du projet de résilience territoriale, mais je veux bien, enfin, si vous m'expliquiez ce que ça peut vouloir dire, enfin, ce que ça concerne.
Katia, si tu as plus d'infos à ce niveau-là, n'hésite pas à nous écrire, ça nous fera plaisir de réagir.
Donc, voilà. J'ai pas entendu parler, mais d'accord. C'est vrai qu'on voit que c'est local, que ce qui était déjà Alors, je ne sais pas si c'est tout à fait en lien, mais en tout cas, c'est la réflexion que je me faisais ce matin. C'est que c'est l'occasion, et on avait déjà cette volonté de consommer local, et pour certains d'entre nous, on est déjà locavore, donc c'était déjà dans les tuyaux, et avec cette crise, on le voit, on voit l'intérêt d'autant plus à la manière individuelle, collective et environnementale. Donc, c'est vrai que forcément, c'est l'occasion de se reposer la question du territoire, de se reposer la question de nos modes de consommation et aussi de l'avenir de nos îles. Mais je ne sais pas ce que c'est exactement le projet de résilience territoriale.
C'est possible que ce soit une idée proposée par Katia ici. Effectivement, quel est votre point de vue sur... C'est la question que je vous pose finalement, c'est est-ce que cette situation n'est pas une opportunité pour nos territoires, pour nos entreprises et pour nos territoires? Est-ce qu'il n'y a pas une manière de se positionner pour pouvoir profiter de cette situation qui est là, quoi qu'il en soit? Donc, c'est un peu dans l'idée de Frédéric tantôt qui disait... Bon, ben, soit on est dans l'inaction, soit on est dans l'action, et déjà d'être dans l'action rassure et permet d'avancer tant bien que mal. Laurent ?
Ouais, je pense que c'est une opportunité, enfin, et je vais reprendre ce que disait Frédéric, de consommer local, de ne plus être dans ce contexte de monde, enfin, moins impacté par ce contexte de mondialisation. On l'a vu avec les masques et la pénurie, et les masques sont en Chine, on est complètement dépendant de cet approvisionnement, alors qu'on a, en tout cas en métropole, il y avait des moyens de production. Ce que je crains, c'est qu'une fois que le confinement sera levé et que la crise sera passée, on reprenne un peu comme c'était avant. Et donc peut-être faire plus d'efforts pour consommer local ou de s'investir sur le territoire plutôt que d'aller au moins cher, et ce qui a été produit à des milliers de kilomètres, et ce qui est en plus pas très bon pour l'environnement.
Effectivement, oui. Et puis le risque, alors c'est vrai qu'il y a cet élan en ce moment, puis nous on le voit bien avec cette pause café, il y a un élan de vouloir changer les choses, et c'est pour ça aussi que nous sommes là, on est convaincus de ce que vous venez de dire avec Jean-Jacques French et Humans Link. Maintenant c'est effectivement comment on fait pour éviter que dès qu'il y a une reprise, on ait certaines prises de conscience qui s'évapore finalement à la reprise. Et comment à un niveau individuel, mais aussi plutôt à un niveau de chaque entreprise, c'est ce que je veux dire, comment chaque entreprise peut agir ou réagir dans la reprise?
Ben, je pense qu'il y aura une difficulté, ça va coûter plus cher, ça peut coûter plus cher à court terme de consommer local, ou enfin, on va prendre deux t-shirts, s'il y en a un qui est fabriqué en Europe ou en Chine, bah, celui qui est fabriqué en Chine, il va coûter beaucoup moins cher. Et nous, on a un double problème, c'est que de par l'insularité, on est obligé d'importer et on ne peut pas tout produire sur le sol guadeloupéen. Donc, ça impose de réfléchir et de voir comment on peut faire. Mais je pense que ce sera très difficile parce qu'on a toujours tendance, et c'est humain, c'est d'aller au plus facile, au moins cher, même si c'est pas la meilleure décision au long terme.
Mmh. C'est vrai que la manière dont le cerveau humain fonctionne, on a un biais vers ce qui est facile et pas nécessairement ce qui nous rend plus heureux. C'est bien d'en être conscient, comme ça permet de dépasser ça. Est-ce que on commence à parler de déconfinement et de reprise. Il y a l'idée de sortir de ce confinement-là et de reprendre les activités qui commencent à émerger. On voit un peu la lumière au bout du tunnel pour certains. Est-ce qu'il y a des actions qui pourraient être menées pour se préparer, ou peut-être une posture, un état d'esprit, ou est-ce que vous, de par votre expertise en tant qu'avocat, mais aussi en tant qu'entrepreneur, et les chefs d'entreprise, est-ce que vous voyez des bons gestes ou des bonnes actions à mener en vue d'un déconfinement prochain?
La distanciation sociale.
Alors, je pense que, enfin, j'avoue que j'ai du mal à me projeter, là, c'est à titre personnel, en tant qu'entrepreneur, jusqu'au déconfinement, je l'admets. Je sais aussi qu'on attend toujours de nous qu'on ait une vision, et là, je trouve que c'est difficile parce que ça va être un déconfinement par petits bouts, de ce que j'entends. Donc, c'est vrai qu'on ne sait pas dans quelle mesure on va pouvoir continuer à mobiliser notre effectif par roulement ou non. Donc, ça, c'est quand même un point. Mais je pense que s'il y a une chose que je pourrais dire, c'est qu'il faut continuer, en tout cas jusqu'au déconfinement, à manager à distance. Et je me suis rendu compte à quel point c'était difficile de manager à distance, parce qu'effectivement, même si on se dit que le télétravail, on avait commencé à le mettre en place, ou en tout cas à y songer fortement, on se rend bien compte qu'entre une situation de télétravail un jour par semaine et une situation de télétravail pendant des semaines, il y a aussi cette... c'est un peu une crainte, mais de perdre de lien avec, pas forcément avec ses collègues, mais en tout cas avec la réalité de l'entreprise, en ayant le sentiment que peut-être les choses ont continué à aller comme avant. Enfin, je pense que la période qui nous attend jusqu'au déconfinement, c'est en tout cas de réussir à faire adhérer, à refaire tout le monde adhérer à un projet d'entreprise, là où tout le monde était un peu dans, finalement, chez lui, plus ou moins seul, dans des problématiques personnelles. Donc, voilà, j'ai l'impression que c'est ça qui est notre défi, c'est de réussir à remobiliser tout le monde. Parce que là, on est un peu dans une période flottante. En tout cas, moi, je me sens flottante. J'ai l'humilité de l'admettre. Et d'avoir le sentiment de faire des choses, mais peut-être plus lentement que d'habitude, ou sur un autre rythme, mais qui ne pourra pas rester celui-là au moment du déconfinement. Et je me dis que notre équipe aussi, il va falloir qu'on l'embarque et dire, bon, allez, maintenant... on va faire en sorte que ça reparte et on a besoin de vous.
Effectivement, il y a quelque chose de très vrai, c'est qu'au départ, on est dans la gestion de crise, et puis c'est une crise qui est soudaine, mais qui finalement dure dans le temps. Et donc, c'est pas quelque chose, une situation qui dure une semaine, deux semaines, ça dure 3, 4, 5 semaines, et on sait qu'on y est en France pour au moins jusqu'au 11 avril. Si ce n'est plus, on verra. Mais donc, quelque part, ça devient notre réalité. Et bien qu'il y ait des mesures à un niveau législatif et administratif que chacun de nous devons prendre, on l'a vu, contacter sa banque et pouvoir contacter aussi des bons avocats pour se faire épauler, pour pouvoir bénéficier de toutes ces mesures. Il y a aussi la réalité humaine et de pouvoir faire perdurer et entretenir ce lien et cette réalité d'entreprise. Il y a des questions, j'entends, de certains employés qui peuvent s'inquiéter de « Ok, mais quel est le projet ? Est-ce que, qu'est-ce qui va devenir de nous ?» Est-ce que, Laurent, de ton côté, tu as rencontré peut-être des difficultés dans la gestion du télétravail avec les gens chez vous ?
Moi, à l'origine, j'étais pas pro télétravail. Peut-être parce que moi, personnellement, quand je suis tout seul chez moi, j'ai du mal à me mettre à travailler. Mais ça m'a montré que c'était un moyen alternatif à quand on peut pas aller au cabinet. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et il y a le télétravail qui reste un moyen efficace. Faut y penser. Je pense que pour l'avenir, c'est des mesures qu'il faut savoir mettre en place assez rapidement. En cas de nouvelle crise, enfin, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle crise comme celle-là qui arrive, ou d'une deuxième vague. Oui. Et je pense que c'est un moyen à appréhender pour que derrière, on puisse maintenir l'activité ou un minimum d'activité. Et par contre, de l'autre côté, je rejoindrai Frédéric, c'est que il ne faut pas que ce soit un moyen exclusif et du coup qu'il y ait une distanciation entre l'équipe et certains de des membres qui ne vont pas être là, qu'il n'y aura pas le même aspect humain dans la relation de travail, qui je pense est important.
Oui, pour partager le point de vue avec HumanSync, c'est précisément dans nos cordes, c'est ce qu'on fait. Effectivement, un conseil à ce niveau-là par rapport à ce sentiment de flottement et ces difficultés qui peuvent émerger, comment entretenir le lien et le maintenir sur la durée avec le télétravail. Bon, déjà, le premier conseil, c'est effectivement, il faut entretenir le lien à tout prix. Le télétravail, c'est un outil, c'est un ensemble d'outils pour malgré tout fonctionner. Mais on l'a vu, on a fait d'ailleurs une pause café où on discutait des enjeux du télétravail, les bienfaits et aussi les points faibles peut-être, les points de vigilance. Il y a énormément de points positifs au télétravail. Pour en nommer quelques-uns, c'est la flexibilité sur les horaires et de pouvoir s'adapter aux besoins individuels. Mais d'un point de vue managérial, ce qui est important, c'est de garder le lien et de comprendre, d'écouter quels sont les besoins, parce que chacun, on le voit régulièrement, vit cette période de confinement différemment. Chacun a sa réalité quelque part. Et donc, en tant que dirigeant chez l'entreprise, c'est accepter que tout soit pas facile à faire. Faut aussi demander, faut pas hésiter à demander aux collaborateurs et les faire participer et leur demander qu'est-ce que eux pensent de cette situation et d'être transparent. Je suis convaincu que dans cette période particulière, il y a de grandes opportunités en termes de leadership et de management. C'est l'occasion de faire preuve de transparence, c'est l'occasion de construire la confiance avec ses équipes. Et quelque part, dans une situation de crise, même si le quotidien auparavant, certains entrepreneurs pouvaient avoir certains manquements en termes de management, ou pouvaient avoir été pris dans la routine, la manière dont on va gérer cette crise, et chacun en entreprise va le faire, il y a de belles opportunités justement pour recréer un lien fort et pour écouter. Donc, transparence et confiance. Et je terminerai en disant aussi, c'est l'occasion de redéfinir le why, le pourquoi. Et Frédéric, tu mentionnais cette inquiétude de certains employés qui disent, OK, mais qu'est-ce qu'on va devenir quelque part où, le projet, la notion de sens et de projet et de pourquoi l'entreprise existe et quelle est notre cause pour laquelle nous battons quelque part. C'est un bel exercice et c'est une belle opportunité d'en parler déjà entre associés et puis ensuite d'ouvrir cette conversation, cette discussion avec les employés. Et moi, je sais que j'avais dit que je terminerais là-dessus, mais j'ai un autre élément que je souhaite partager avec vous, que j'ai déjà partagé sur d'autres lives, mais utilisez le télétravail, les outils que vous utilisez pour travailler à distance et faites simplement des réunions une ou deux fois par semaine, mais qui ne sont pas au sujet du travail, qui sont simplement des courtes rencontres, pour faire du lien et savoir demander à chacun comment chacun va, comment chacun vit, comment chacun se sent. Et on peut utiliser un outil simple pour ceux qui auraient du mal à exprimer comment ils vont ou comment ils se sentent, les différentes émotions, tout ça. C'est simplement utiliser une météo. Alors, quel temps il fait chez vous, quoi, intérieurement, ou est-ce que c'est vert, orange ou rouge? Comment vous vous sentez? Et après, ça peut faire ça peut lancer la discussion. C'est un moyen qui est très facile quelque part. Et le prétexte et le contexte du confinement se prêtent très très bien à ce jeu-là de créer du lien. Donc, quand les gens ont besoin de sécurité, c'est un grand besoin qu'il y a en ce moment. C'est l'opportunité pour chaque chef d'entreprise de prendre une position de leader. Et je rappelle, le leader, c'est inspirer et nourrir les besoins. Et pour pouvoir le faire, il faut développer sa capacité d'écoute et donc de continuer à parler, à dialoguer avec ses équipes. Est-ce que ceux qui nous suivent dans le chat, c'est quelque chose que vous remarquez? Est-ce que c'est vous vous sentez incertain par rapport à l'avenir? Est-ce que vous avez des inquiétudes? Ou pour les chefs d'entreprise ou les managers qui nous écoutent, est-ce que comment vous arrivez à entretenir le lien avec vos équipes et avec les gens de votre entreprise ou vos équipes? Parce que la distanciation sociale, c'est pas la distanciation physique,
C'est pas la même chose, ouais.
c'est pas la même chose, effectivement. Est-ce que Frédéric, est-ce que c'est, je te voyais acquiescer de la tête, est-ce que c'est les éléments que j'ai mentionnés ici, ça, c'est quelque chose qui vous parle?
Oui, complètement, parce que dans cette période-là, ça a été l'occasion d'inventer un peu des façons de se parler, de communiquer. Ça a obligé aussi à une communication autre que simplement professionnelle. C'est exactement ce que vous évoquiez tout à l'heure. Ça a aussi été l'occasion, au moins en partie, de peut-être recréer des liens d'équipe où on prend plus le temps finalement de se parler d'autre chose que de travail. Ça a pu être cette opportunité-là aussi, de se rendre compte qu'on est. Enfin, moi, je suis une fan du télétravail. Hein, j'adore le télétravail. Cette période me donne l'occasion de m'en rendre compte encore plus. Je me rends compte aussi de la difficulté à manager en télétravail. Ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, de se dire un ou deux jours par semaine, vraiment systématiser au moins à titre personnel. Le télétravail et voir dans quelle mesure c'est possible parce qu'après on a quand même des métiers qui nous obligent à être physiquement présents. Donc ne serait-ce que se dire que on a conscience que c'est un bon outil après essayer de le systématiser même si c'est une fois par mois enfin voyez sans avoir une fréquence forcément très très élevée. C'est vrai que ce confinement a été cette occasion-là et aussi de recréer moi je pense du lien avec notre équipe, avec notre équipe tout simplement, en parlant d'autres choses parce qu'on avait plus de temps, parce qu'on était plus cool, parce que finalement on pouvait se parler en étant dans notre salon et que etc.
Effectivement, puis on le voit souvent que le télétravail, c'est bon, ok, il y a des avantages et des inconvénients, mais c'est pas chaque individu, de par son fonctionnement, va pas réagir de la même manière, et c'est ok. Effectivement, il y a des gens qui ont besoin d'être dans un environnement particulier, qui vont être plus sensibles aux caractéristiques de l'environnement pour se mettre dans une position optimale. Et pour pouvoir performer et faire ce qu'ils aiment de la meilleure manière. Et d'autres, l'environnement va moins être important. Et donc, il y a aussi quelque part, encore une fois, on revient sur l'écoute et la compréhension des besoins de chacun. Une première prise de conscience, c'est d'intégrer le fait que le vécu n'est pas le même pour tout le monde. Mais encore une fois, on est convaincu ici que ça reste une opportunité pour créer du lien. Et on le voit même à titre personnel, cette période où on fait les choses avec un autre rythme. Le fait qu'on soit à la maison, on passe plus de temps avec la famille, avec les enfants. Là, c'est ma perception. Il me semble que la hiérarchie des besoins a été un petit peu changée. Les priorités sont plus les mêmes nécessairement. Et donc, il y a certainement des changements de paradigme qui vont se faire dans l'organisation. D'ailleurs, il y a Yoli ici qui nous dit, le télétravail sera-t-il plus usité dans l'après-Covid? L'organisation va changer de paradigme. Le contrat de travail peut-il subir cette modification? Comment peser une rémunération juste? Il y a plusieurs questions très pertinentes ici, Yoli. Effectivement, sur les... Est-ce que vous voulez réagir,
Oui,
Laurent?
ce qui
Ah, pardon,
Oui.
Frédéric? Top.
Laurent.
Vous choisissez. Vas-y, Laurent.
Ah, je pense que enfin, oui, ça va changer. Il y aura peut-être plus d'occasions d'utiliser le télétravail après le Covid, parce que des gens réfractaires comme je l'étais avant le Covid, du coup, je vois que ça peut être utile. Après, comment le contrat peut subir cette modification? Bah, Frédéric aura peut-être un regard plus technique, mais en tous les cas, enfin, le contrat de travail reste le même. Vous êtes payé pour un travail et pour rendre une prestation, et cette prestation, qu'elle soit rendue dans un bureau ou à distance, elle sera la même. Donc, je pense que ça ne change rien au contrat de travail ni à la rémunération. Au contraire, ça doit être ça l'avantage, c'est que on peut pallier à une présence physique momentanément par le télétravail.
D'accord. Il y a une question qui me vient en t'écoutant, Laurent, c'est la notion du 35 heures semaine ou ici au Canada, c'est 40 heures semaine. Il y a un paradigme sur est-ce qu'on va mesurer la performance, est-ce qu'on va exiger un temps de travail ou est-ce qu'on va exiger un résultat, une atteinte d'objectif défini. Dans le contrat de travail, souvent, il y a une notion de temps passé à travailler. Or, on le voit aujourd'hui, ce qui est vraiment important aujourd'hui, étant donné qu'on est beaucoup en télétravail, c'est vraiment qu'est-ce qu'on est capable de produire. Qu'on le produise sur une quantité de temps définie, est-ce que c'est pertinent ou pas? Et comment ça peut se... Est-ce qu'à ce niveau-là, il n'y aurait pas une adaptation à faire ou...
Je pense que le télétravail oblige, pointe le travail rendu et pas un quota d'heures effectué dans la semaine. Donc ça peut être bénéfique, comme ça peut être plus problématique, parce que ça. Et je pense que quand on est en télétravail, on peut se dire j'ai pas produit assez ou j'ai pas produit assez bien. Pour satisfaire mon employeur, c'est peut-être un réflexe qu'on peut avoir et c'est ce que j'ai entendu dans certaines émissions et je comprends très bien. Mais c'est vrai que le télétravail porte plus. Enfin, quand on a du présentiel, on va regarder si à 9h vous êtes là et si à 17h vous êtes toujours là. C'est peut-être moins le cas dans les pays anglo-saxons ou même au Canada. Et le fait qu'on soit en télétravail, il n'y a pas cette question de présentiel qui importe plus. Et du coup, on va plus regarder la qualité du travail.
Effectivement, oui. Ouais, je suis convaincu que ça montre aussi les limites de se dire d'un système où on se dit « Ok, il faut travailler un certain nombre d'heures par jour. » Puisqu'en plus, avec Humanistic, on le voit, sur une journée de 8 heures en présentiel au bureau, on n'est pas 8 heures productif. Voilà. J'ai une question pour Frédéric qui, au début, nous disait toi, tu as entamé le droit finalement pour avoir une influence positive sur le monde. Et est-ce que aujourd'hui, est-ce que tu sens que tu es capable de, vous êtes capable avec Philao de faire votre part?
Je l'espère, parce que c'est vrai que cette période de confinement, c'est l'occasion, je le disais un peu au début, de se reposer la question de est-ce qu'à titre personnel, est-ce qu'à titre professionnel, on a bien fait les choses, est-ce que, sachant que ça ne veut rien dire avoir bien fait les choses, j'en ai bien conscience, mais je pense que oui, on apporte en tout cas, on essaye notre contribution à. Alors, un monde meilleur, je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible, parce que, en tout cas à notre échelle, mais c'est vrai qu'il y a aussi des fois cette frustration de se dire qu'on pourrait faire plus, mais comment? En tout cas, moi, je n'ai pas encore trouvé de réponse à ces questions-là. Et je voulais quand même juste, dans cette réflexion, de se dire comment faire différemment en essayant de faire mieux. Finalement, on parlait du temps de travail, faire plus avec moins, enfin... C'est de se dire, effectivement, on va devoir repenser la façon de travailler. On a déjà les outils, hein. Effectivement, je voulais réagir aux commentaires de Yoli. Juridiquement, on a vu cette inversion sur la question du télétravail. Ça veut dire que jusque-là, le télétravail était l'exception. Il fallait que ça ait été bordé dans le contrat de travail et c'est devenu la règle, finalement, avec le confinement. C'était dès lors que c'est possible, vous placez vos salariés en télétravail. Donc, il y a déjà eu cette, ne serait-ce que du point de vue législatif, il y a déjà eu un peu cette inversion sur le prisme par lequel on travaille. Et on a aujourd'hui les forfaits jouants qui existent pour ne pas être dans un comptage du nombre d'heures. Après, la question va être comment est-ce qu'on va pouvoir articuler télétravail, forfaits jouants pour que l'entreprise et les salariés, chacun s'y retrouvent. Parce que même s'il y a la question de la productivité derrière et de la performance, et tout ça en même temps, derrière, il y a aussi... ce que individuellement on va pouvoir tirer de cette situation. Et je pense qu'au-delà de la question de si on est employeur ou salarié, c'est comment on ressort grandi de cette situation qui perdure et sans visibilité.
Effectivement, merci Frédéric. Puis Laurent, est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû vous poser et que je n'ai pas posée?
Non, je pense que tu as été parfait.
Mais je vous remercie. Et on va prendre le commentaire de Frédéric, plein d'optimisme, pour conclure ce live aujourd'hui. Je vous remercie tous les deux, à vous deux, Frédéric et Laurent. Merci beaucoup pour votre temps ce matin, pour cette pause café. Et merci à vous tous qui nous suivez en direct, merci. Que ce soit sur YouTube et sur Facebook. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit like et à vous abonner ou à partager les publications et les lives. Demain, on se retrouve avec le docteur Frédéric Costa pour la promotion de la santé en situation de crise. Ça promet d'être lourd, très très lourd. Je vous souhaite une excellente journée. Rappelez-vous, soyez humains, soyez extraordinaires. À demain.
À demain. Greatest.